Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
Mardi 29 novembre,
l'info sur RMC.
Il est 7h tout pile sur RMC et RMC Story. Bonjour à tous, excellent réveil. C'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les bouchers en tablier manifestent ce matin devant l'Assemblée nationale. Appel à l'aide face à la flambée des prix de l'énergie. Le pot de yaourt, bombe polluante, on l'apprend ce matin, ça fait réfléchir. On en consomme 15 milliards par an en France. Le Brésil et le Portugal qualifiés pour les 8e. La France, elle ne chamboulera pas tout son 11 de départ demain face à la Tunisie.
Et les bouchers descendent dans la rue aujourd'hui.
20 ans qu'ils n'avaient pas manifesté, plus le choix. La flambée des prix de l'énergie les accable. Plus d'un tiers redoute de ne pas passer l'hiver car ils ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. C'est ce que dit leur confédération. Manifestation prévue à 11h devant l'Assemblée nationale. Avant cela, Martin Cadoret est allé en boutique à leur rencontre en région parisienne.
9,56 s'il te plaît.
Derrière le comptoir de sa petite boucherie à Meudon, Mohamed Kilouli découpe palerons de bœuf et côtes d'agneau.
Et voilà.
2 ans qu'il a ouvert sa boucherie et depuis, le prix des matières premières a bondi.
On est sur une grosse flambée, notamment sur le filet de poulet. Depuis 2 ans, on est quasiment à plus 35%. On répercute un petit peu sur le filet de poulet. J'ai augmenté en 2 ans seulement de 2 euros au kilo.
Autre poste de dépense qui a explosé, l'énergie. Impossible d'y couper pour la chambre froide, par exemple.
Ça, c'est des carcasses qu'on est obligé de garder dans le frais. Et ça consomme énormément. On a un petit rayon surgelé qui tourne aussi 24 heures sur 24.
Le gouvernement a bien annoncé des aides, mais Mohamed l'admet, concentré à servir les clients tous les jours, il n'en a pas entendu parler et la facture, elle, continue de grimper.
J'ai commencé à peu près à 250 euros sur les 2 mois. Aujourd'hui, on est passé à 1200 euros bimestriel.
En 2023, les entreprises vont bénéficier d'un mécanisme d'amortissement du prix de l'électricité, mais cela ne va pas assez loin, selon Patrick Gimonet, directeur de la Confédération française de la boucherie-charcuterie.
Le coût de l'énergie est quelque chose qui est immaîtrisable, d'où la nécessité, effectivement, de plafonner les coûts, comme l'ont fait l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne tout récemment.
Les bouchers-charcutiers qui sont appelés de 11h à 13h à éteindre symboliquement leur lumière.
Nos artisans sont-ils en danger? On y reviendra à 7h40 avec 2 invités, Frédéric Roy qui est artisan boulanger à Nice et puis Jean-François Guillard qui est le président de la Confédération des bouchers, charcutiers, traiteurs et vous bien sûr, appelez-nous pour témoigner au 3216.
La crise de l'énergie qui provoque aussi le redémarrage de la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle. Trop polluante, le gouvernement l'avait fermée en mars dernier, mais les principes écologiques ont laissé place au principe de réalité. Sa production d'électricité est indispensable pour alimenter 600 000 foyers de la région Grand Est. 7h02, cette information RMC. Un homme accusé de meurtre, arrêté et placé en garde à vue hier à la Courneuve en région parisienne. Soupçonné d'avoir mortellement poignardé un homme de 70 ans dans un parc de la ville, on apprend qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Guillaume Biet, chef du service police-justice d'RMC.
La victime devait fêter ses 75 ans dans quelques jours. Samedi, en plein après-midi, à l'entrée du parc départemental de la Courneuve, cet homme tranquillement assis sur un banc a été mortellement poignardé pour une raison encore inconnue. Un témoin a croisé le meurtrier. Son récit a été déterminant pour les enquêteurs de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. En moins de 48 heures, ils ont ainsi pu identifier et retrouver le suspect arrêté hier midi. D'après nos informations, c'est un délinquant roumain de 24 ans, déjà connu pour vol, violence et agression sexuelle. Récemment sorti de prison, il avait une OQTF, une obligation de quitter le territoire depuis le 2 septembre, avec interdiction de revenir en France. Les policiers le soupçonnent également d'autres agressions, notamment une précédente tentative de meurtre la veille, à la même heure, dans ce même parc de la Courneuve.
Et cette information BFM TV, une victoire historique pour les victimes d'agressions sexuelles. Un homme vient d'être condamné malgré la prescription des faits. Il s'agit de José Bruno, figure du monde hippique, accusé d'avoir abusé de Jérémy Garamond, alors adolescent dans les années 90. Une condamnation possible car l'affaire a été jugée au civil et non au pénal. On y revient dans le Expliquez-nous de Nicolas Poincaré. Ça sera à 7h50.
Et entre-temps, il est 7h04 sur RMC. Vous n'allez plus jamais regarder votre pot de yaourt de la même manière.
Ce sont tout simplement de petites bombes polluantes composées de polystyrène, un matériau mauvais pour la santé et très difficile à recycler. Une conférence de l'ONU cette semaine en Uruguay va se pencher sur la question pour ensuite négocier un traité qui endiguerait la pollution au plastique. Quasiment 9 millions de tonnes finissent chaque année dans l'océan. La France a son rôle à jouer. Ces pots de yaourt, on en consomme des milliards chaque année, Mathieu Limongi.
Sur les 15 milliards de pots consommés chaque année en France, seuls 2% sont recyclés. Chez Jérémy, les yaourts s'éteignent à chaque repas. Face aux chiffres, il peine à réaliser l'ampleur de ces déchets. Pour lui, les Français ne sont pas assez informés.
Je pense que si vous demandez à beaucoup de gens, je pense pas qu'ils sachent que dans les pots de yaourts, il y a que 2% qui sont recyclés. Donc, encore une fois, ça marche pas la sensibilisation aux choses. Et c'est vrai qu'il faudrait trouver une alternative.
Plus sensible à la question, Laurent a décidé d'agir. Il achète des pots en verre directement chez le producteur.
Plus local et plus éco-responsable. Moins de déchets, ça vaut le coup.
Mais il a aussi une autre solution.
Faut boycotter en masse. Ça a toujours fonctionné. C'est le seul réel levier d'action du consommateur.
Un avis partagé par Jimmy Pain, un député MoDem du Morbihan. En France, aucun centre de recyclage ne parvient à traiter le polystyrène qui finit enfoui sous terre puis dans l'océan. Alors voilà 2 ans qu'il s'est engagé sur la question.
Ce polystyrène, on n'arrive pas à le repérer sur les chaînes de tri. Il faut vraiment tout faire pour l'écarter. Alors le mot boycott est un mot un petit peu fort, mais je crois que c'est au consommateur de prendre ses responsabilités. Les industriels s'adapteront toujours au consommateur.
Autre piste pour réduire l'impact environnemental, préférer les pots plus volumineux aux emballages individuels, comme c'est le cas au Portugal ou au Royaume-Uni.
Mathieu Limongi pour RMC. En bref, la motion de censure des députés La France Insoumise rejetée. Motion déposée en riposte au 6e 49-3 actionné par Elisabeth Borne vendredi dernier pour faire passer un texte budgétaire. Emmanuel Macron, lui, est attendu à Washington en fin de journée aux États-Unis pour un premier voyage officiel depuis l'élection de Joe Biden. Au programme, la guerre en Ukraine et les mesures protectionnistes des Américains.
RMC. Coupe du Monde 2022.
Cette image marquante hier à Doha, en plein Portugal-Uruguay. Un homme a fait irruption avec un drapeau arc-en-ciel en soutien à la communauté gay persécutée au Qatar. Il portait aussi un t-shirt en soutien aux femmes iraniennes et à l'Ukraine. Il a eu 30 secondes top chrono sur la pelouse du stade pour faire passer ses messages avant d'être intercepté par la sécurité. Côté sportif maintenant, le Portugal qui a rejoint la famille des qualifiés, victoire 2-0 contre l'Uruguay. Un ticket pour les 8e de finale pour le Brésil aussi, malgré l'absence de Neymar qui soigne encore son entorse. Succès 1-0 contre la Suisse hier. Les Bleus, eux, ont été les premiers à se qualifier. Ils affrontent demain la Tunisie. Dernier match de poule. On rejoint tout de suite Loïc Braillet, envoyé spécial RMC, en direct depuis Doha. Un match sans grands enjeux. Et pourtant, Loïc, Didier Deschamps ne va pas changer tous ses joueurs.
Oui, face à la Tunisie, il y a 3 joueurs cadres qui devraient enchaîner et être de nouveau titulaires, un par ligne. D'abord Raphaël Varane en charnière centrale de la défense. Le vice-capitaine des Bleus n'a joué que 75 minutes face au Danemark. Il avait été jugé trop juste pour jouer contre l'Australie suite à sa blessure. Il a besoin de temps de jeu pour gagner en rythme. Ensuite, Antoine Griezmann, véritable plaque tournante au milieu de terrain. Sa débauche d'énergie est énorme dans une position plus reculée. Plus de 10 km par match depuis le début du Mondial. Il semble indispensable aux yeux de Deschamps et en capacité lui aussi d'enchaîner. Enfin, en attaque, Kylian Mbappé qui marche sur l'eau. 3 buts en 2 matchs, aucun pépin physique. Lui ne pense qu'à jouer et à empiler les buts. Ce sera difficile pour le sélectionneur de le mettre sur le banc. Sachez que de toute façon, le staff médical dispose de données chiffrées très précises sur l'état physique de tous les joueurs. Donc, chaque risque qui sera pris le sera en connaissance de cause. Risque mesuré et réfléchi.
Merci Loïc, en direct depuis Doha, un match sans Karim Benzema, je le précise. Le Ballon d'Or n'est pas apte à jouer, RMC vous le confirme ce matin, la rumeur d'un retour au Qatar a enflammé la presse espagnole hier. Le grand loto des JO va bientôt commencer. Oui, c'est une première. Les billets pour Paris 2024 pourront s'acheter via tirage au sort. Les inscriptions débutent jeudi 11h et vous serez prêts grâce à Julien Richard, mode d'emploi.
Et pas besoin de vous ruer sur votre ordinateur, pas de premier arrivé, premier servi. Vous avez de ce jeudi 1er décembre jusqu'au 15 janvier pour vous inscrire sur la plateforme en ligne dédiée. Ça prend 3 minutes. Ensuite, il faut croiser les doigts pour être tiré au sort. Les chanceux pourront donc acheter à partir du 15 février jusqu'à 30 billets par personne. Des places à partir de 24€, moins de 50€ pour la moitié des billets en vente et un programme à se concocter selon ses envies. Tous les sports sont disponibles pour 72€ par exemple. Vous pouvez vous offrir une place pour la natation, pour l'athlétisme et le beach volley sous la tour Eiffel. En revanche, oubliez pour le moment les épreuves les plus demandées, la finale du 100 mètres d'athlétisme, la journée de Teddy Riner en judo par exemple. Ces places seront mises en vente avec un nouveau tirage au sort au mois de mars.
Et on vous conseille de bien repérer les compétitions auxquelles vous voulez assister puisque 600 sessions sont quand même ouvertes à la vente. Donc un petit repérage, c'est pas trop.
C'était le journal de Marguerite Dumont. Il est 7h09 sur RMC.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie.
Bonjour Pauline.
Amélie, vous avez été contactée à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr par Dominique. Dominique, sa situation est ubuesque.
L'histoire commence comme un polar. On est dans le nord de la France en 2014. Une Porsche Cayenne s'arrête au feu rouge. À l'intérieur, des braqueurs viennent de dévaliser une bijouterie. Sirène hurlante, la police arrive. La Porsche redémarre, percute plusieurs véhicules dans sa fuite avant d'être enfin stoppée. Et parmi les voitures embouties, il y a celle de Dominique. Les policiers l'invitent à se rendre au commissariat pour porter plainte, ce qu'il fait. Son véhicule, lui, est parti à la casse. C'était il y a 8 ans et Dominique n'a toujours pas perçu un centime d'indemnisation.
J'ai envoyé ma carte grise à mon assureur. Ils ont tous les documents officiels en main et ils n'ont jamais voulu m'indemniser. Là, je viens d'être licencié. Je me retrouve quasi sans ressources. J'ai 7 500 € qui traînent dans les rues depuis 2014 pour quelque chose dans laquelle je n'ai rien à voir.
Amélie, pourquoi est-ce que Dominique n'est pas indemnisé ?
L'explication de son assureur peut prêter à sourire, tellement elle paraît invraisemblable. L'Olivier Assurance refuse d'indemniser notre auditeur parce qu'il n'a pas de constat. Avouez que faire un constat avec des braqueurs qui ont volé une voiture pour dévaliser une bijouterie en pleine course-poursuite avec la police, c'est quand même pas évident. Les braqueurs ont bien été poursuivis d'ailleurs par la justice et condamnés en 2015 à verser la somme de 7 500 € au titre des préjudices subis par Dominique. Mais ils sont insolvables. Et oui, et pour les faits dont il est question, notre auditeur n'est pas éligible au dispositif de fonds de garantie des victimes. Bref, sa situation, vous l'avez compris, est inextricable.
Mais j'imagine que vous avez quand même réussi à l'aider, Amélie.
Et oui, mais honnêtement, il a fallu s'accrocher. Dans un premier temps, l'assureur nous soutenait que ce n'était pas à lui de payer puisqu'un jugement pénal avait eu lieu. Or, nous nous sommes renseignés et la loi est sans équivoque. Dans ce cas précis, il revient bien à l'assureur d'indemniser. Donc, nous avons rappelé l'Olivier Assurance et bingo, après 8 ans d'attente, en 4 jours, Dominique, le dossier de Dominique a été réglé. Il va percevoir avant la fin de la semaine la somme de 1 600 € sur son compte en banque. 1 600 € qui correspondent au prix estimé de sa voiture, auquel s'ajoute un geste commercial de l'assureur pour les 8 ans d'attente.
Merci Amélie. Et c'est vrai qu'on est sidéré aussi par les préjudices qui ne sont finalement jamais réglés. Mais on est heureux pour Dominique. RMC pour vous, à rmc.fr. Vous connaissez désormais le chemin.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, le témoin du jour a été l'un des premiers à porter secours à ce jeune de 14 ans, tué samedi lors d'une rixe dans les Yvelines. Il nous racontera comment s'est passée cette soirée et comment il a tout de suite tenté d'apaiser les tensions pour éviter des représailles.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 sur RMC, bon réveil à tous.
Le témoin RMC.
Le témoin RMC, c'est vous, Yann Lamotte, bonjour. Avec vous, on va tenter de comprendre comment deux bandes ont fini par s'affronter ce week-end dans les Yvelines et comment cet adolescent de 14 ans est mort, tué à coups de marteau. Ce drame, il s'est déroulé après un match de MMA à Coignères, samedi soir, dont vous étiez l'un des organisateurs. D'abord, je voudrais que vous puissiez nous raconter, vous étiez l'un des premiers à arriver sur place. Vous étiez à l'intérieur du gymnase où avait lieu ce gala sportif. On est venu vous chercher en vous disant, viens, il y a une bagarre dehors. Qu'est-ce que vous avez constaté alors ?
Bonjour, merci de me donner la parole. Alors, je vais être obligé d'un peu de modérer vos propos.
Dites-nous,
on ne parle pas de deux bandes de rivales, mais de deux groupes de jeunes qui se croisent et qui vont être amenés à s'affronter pour de mauvaises raisons. Il n'y a jamais de bonnes raisons, mais là, vraiment pour de mauvaises raisons. Ça, c'est important de le préciser parce qu'on n'est pas dans un quartier ou dans des régions où on peut parler de phénomène de bande. On n'a pas ça chez nous. Mmh. On reste des petits villages. Coignères, c'est 4000 habitants. Coignères, un petit peu plus grand, mais on n'est pas du tout sur des zones qui pourraient être considérées comme certains endroits, zones de non-droit.
Il n'y a pas cette situation permanente qui aurait juste dégénéré.
Absolument pas. Non, absolument pas, et c'est important de le préciser parce que les habitants aujourd'hui entendent ce genre de truc et se reconnaissent pas dans ce sujet.
Prenez le temps de nous le dire, c'est précisément pour ça que je voulais vous entendre ce matin.
Merci. Donc après, oui, l'événement tragique arrive en marge d'une soirée sportive, d'un gala sportif, comme ça aurait pu se passer à la sortie d'un collège ou à la sortie d'un cinéma ou je ne sais quel endroit de rassemblement potentiel. C'est dramatique. C'est un enfant de 14 ans qui meurt. qui meurent pour de mauvaises raisons, je leur insiste. Et donc en sortant de la salle, donc pour moi il y a plus de bagarre, il y a un enfant qui est au sol. Il y a déjà des adultes qui sont en train de s'affairer autour, qui l'ont mis en PLS et qui ont prodigué les premiers gestes de premier secours. Et lorsqu'on prend le pouls, on se rend compte que le pouls est arrêté. Et voilà. Et là, on est, je sais pas, trois ou quatre à entamer à tour de rôle le massage cardiaque. La Croix-Rouge est avec nous, parce que, étant donné qu'on est sur un événement sportif avec tous les éléments liés aux organisations sportives. Nous avons la Croix-Rouge avec nous et nous avons deux docteurs dans l'établissement aussi. Tout le monde tente, tout ce qui est faisable. La Croix-Rouge fait avec le masque, on voit l'oxygène. On est plusieurs adultes à amasser l'enfant pour essayer de le faire repartir. On attend que les pompiers arrivent et prennent le relais. Malheureusement, comme vous connaissez l'issue, le cœur ne repartira malheureusement pas. Et l'enfant de 14 ans va perdre la vie sur le parking ce soir-là.
Et depuis, celui qui dit avoir porté les coups s'est rendu et il a 16 ans. Mais Yann Lamotte, je reviens sur un mot que vous venez de dire, puisque vous connaissez parfaitement les lieux, vous connaissez parfaitement tous les habitants, vous vivez là depuis très longtemps, vous organisez ce genre d'événements, de galas, de rencontres. Et vous m'avez tout de suite reprise en disant « Non, chez nous, on n'a pas ces bandes-là ». Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça dégénère alors que si j'écoute votre témoignage, je me dis que ça n'aurait jamais dû arriver? Pourquoi soudain est-ce que moi j'en viens à dire deux bandes rivales et vous me dites non, on n'a pas ça? Qu'est-ce qui fait que ce soir-là, malgré tout, ces jeunes s'affrontent?
Le système sociologique de rassemblement de jeunes, il a toujours existé, d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'endroit, qu'on soit dans un tout petit village au fin fond de n'importe quelle région de France, ou d'ailleurs, je pense, du monde, on se réunit entre pairs, donc que 4, 5, 6 ou 7 copains se réunissent. C'est un système que tout le monde connaît, qui ne peut pas s'apparenter au système de bande, ça ramène directement à du trafic ou en tout cas une opération malhonnête ou donc c'est ce phénomène-là qui n'est pas commun chez nous.
Quand vous dites pour de mauvaises raisons, est-ce que vous savez ce qui a déclenché la bagarre?
Aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Ce que j'en sais, dans des échos que j'ai pu avoir, au moment où je sors, la bagarre est déjà terminée. Ça serait une affaire de regard, de raisons qui n'ont pas de valeur, en fait, qui ne peuvent pas entraîner un tel drame.
Et vous avez dit...
c'est des enfants, ils ont 14 ans.
Ils ont 14 ans, ils ont 16 ans.
Ils ont une réaction qui n'est pas celle d'un adulte réfléchi qui pourrait prendre le temps de réfléchir mais de prendre conscience qu'en fait ce qu'il est en train de faire, ça n'a pas de sens.
Yann Lamotte, vous avez dit ça n'a pas de sens évidemment, et d'ailleurs vous avez ensuite été avec d'autres adultes pour tenter de calmer le plus possible les esprits. Vous êtes professeur de MMA, qu'est-ce que vous répondez? Vous avez dit ça aurait pu arriver n'importe où, à la sortie d'un collège, à la sortie d'un cinéma. Il se trouve que ça a eu lieu à la sortie d'un gala avec un combat de MMA. Il y a certains maires qui disent qu'il y a un rapport entre le MMA et la violence, entre les combats de MMA et la violence. Qu'est-ce que vous leur répondez? Le maire de Villiers-sur-Marne, par exemple, qui ne veut pas qu'il y ait des combats de MMA, précisément parce qu'il a le sentiment que ça va échauffer la violence des jeunes.
Je peux pas répondre à ce monsieur en l'écoutant sur BFM hier. J'ai été lire sa bio quand je vois les différents propos qu'il a pu tenir sur différents sujets. En fait, je me rends compte que c'est une personne qui pour moi est inintéressante. Je veux pas perdre du temps à polémiquer avec ce genre de personne. Le MMA est une discipline à part entière, que ça soit du MMA ou du grappling fight. D'ailleurs, quelle que soit l'appellation qu'on peut lui donner, parce qu'il y a différentes fédérations qui œuvrent autour de ce travail. C'est un exercice, c'est un outil de travail à part entière. C'est-à-dire qu'on est sur les mêmes valeurs que n'importe quelle autre discipline. C'est-à-dire, c'est un athlète de MMA, c'est une personne qui s'entraîne de manière régulière, avec des partenaires d'entraînement de manière régulière, qui a une hygiène de vie, qui a des horaires de coucher, des horaires de lever, une alimentation stricte, et absolument tous les participants, on se connaît à peu près tous, en fait, mais comme dans n'importe quel sport, en fait. Il n'y a pas ce que j'ai pu entendre les propos de ce monsieur qui sont complètement erronés. voilà, je sais pas de quelle pratique il parle, mais
votre réponse et votre témoignage ce matin, Yann Lamotte, j'entends parfaitement ce que vous dites, vous qui êtes donc l'un des organisateurs de ce gala de MMA dans les Yvelines. Merci de votre récit, et c'est important aussi, vous qui connaissez parfaitement les lieux. Je rappelle que vous êtes donc professeur de MMA dans les Yvelines, et vous nous parliez de cet adolescent de 14 ans qui est mort samedi soir. Il est 7h21.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Du jamais vu depuis plus de 20 ans, manifestation de bouchers charcutiers ce matin devant l'Assemblée nationale face à la hausse des prix de l'énergie. On sera avec l'un d'eux et avec un boulanger qui se mobilise lui aussi. Les artisans sont en colère et ce sera à 7h40. Et puis dans un instant, quel budget pour assister aux JO à Paris? Emmanuel Le Chip nous donnera le prix des billets. Puis Arnaud Demange viendra pirater le 32-16. Là aussi, il sera question de tickets de métro.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
L'indiscret du service politique d'RMC avec Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien, c'est bonjour, une information Apolline. RMC que vous nous dévoilez ce matin. Des députés du Rassemblement National se rendent en prison ce matin.
Oui, vous savez, c'est un droit des parlementaires, le droit de visiter à tout moment les prisons. Droit que vont donc exercer 6 élus RN à la prison de Fresnes, près de Paris. Choix pas du tout anodin. Souvenez-vous de la polémique cet été sur les fameux jeux Koh-Lantès avec du karting dans la cour. La prison club de vacances dénoncée à alors le Rassemblement National. Et puis, pas anodin non plus, cette visite intervient alors que le débat sur l'immigration commence la semaine prochaine à l'Assemblée. Immigration, délinquance, les députés RN vont en prison précisément pour établir ce lien. La députée Edwige Diaz qui mène la délégation nous l'a dit clairement, lien entre surpopulation carcérale et surreprésentation des étrangers.
Une visite très politique d'ailleurs, les élus RN y vont tout seuls.
Oui, et c'est un choix assumé parce qu'ils auraient pu y aller le mois dernier. Ils étaient conviés à une autre visite dans cette même prison de Fresnes à l'initiative du président de la commission des lois, le macroniste Sacha Houlier, qui avait invité toutes les oppositions. C'était le 14 octobre. Seuls les insoumis étaient finalement représentés. Plusieurs RN s'étaient alors désistés au dernier moment. Ordre de Marine Le Pen, nous dit-on. On ne voulait pas être cornaqué par la majorité. Peut-être aussi parce que l'objet de la visite était très différent. Il s'agissait de parler conditions de détention et réinsertion. Sacha Houlier aujourd'hui s'en amuse. L'avantage de la démocratie, c'est qu'il y a toujours une session de rattrapage pour les mauvais élèves.
Sébastien Krebs du service politique d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h25, c'est l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, assisté au JO de Paris 2024, ça va être relativement accessible financièrement.
Oui, plutôt, puisque près de 10 millions de billets seront mis en vente pour ces JO, 3,4 pour les Jeux paralympiques. 1 million de billets seront vendus, 24 euros l'unité, et ce pour tous les sports. Et près de la moitié des billets grand public le seront à moins de 50 euros. Quant aux billets les plus chers pour des événements très prisés, tels que la finale du 100 mètres en athlétisme ou celle du tournoi de basket masculin, le prix maximum a été fixé à 950 euros. À noter, à mon grand regret, qu'il n'y aura pas de tickets disponibles pour le surf à Tahiti.
Ah, ça c'est dommage, effectivement, il fallait le voyage aussi. Est-ce que c'est cher par rapport aux autres compétitions?
Alors, la fourchette, par exemple, est moins large que lors des précédents Jeux Olympiques de Tokyo, où ça allait de 15 à 2300 euros. Sinon, les prix d'appel sont plus bas que pour l'actuelle Coupe du Monde, mais ensuite, ça se vaut. Si vous prenez les matchs de poule pour la Coupe du Monde, on est entre 62 et 200 euros, avec quatre catégories différentes. Les résidents qataris, eux, avaient la chance d'obtenir des billets pour un tarif beaucoup plus avantageux, 10 euros à 190 euros. Pour les JO, cette préférence nationale qui existait auparavant n'existera plus pour les JO de Paris.
Tout le monde sera logé à la même enseigne. 7h27, Arnaud Demange.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demange pirate le 32-16.
Arnaud Demange dans ce studio, bien rentré.
Bonjour.
De Nice.
Mais oui, bien revenu.
Et Arnaud, ce qui fait réagir ce matin, c'est le pass Navigo, parce que l'année prochaine, il pourrait passer à 90 euros par mois.
Oui, et ça rend les usagers en colère, notamment Françoise qui nous a laissé. C'est un scandale dans une période où les Français n'ont rien. À chaque trajet, on aura sans doute des gens dans la Manche, des gens dans la rame qui feront la Manche en disant « Mesdames et messieurs, je m'excuse de vous déranger, mais je me permets de vous demander un euro ou deux pour manger, car je viens, hélas, de payer mon pass Navigo. » On finira tous par faire la Manche. On sera 50 accordéonistes par rame. Le métro, ça va devenir le grand orchestre d'Emir Kusturica. Ça va devenir insupportable. Et puis, on a un long message de Francis de Paris.
Salut RMC, bonjour à tous et bonjour surtout à Géraldine de Maury. Géraldine, Je n'ai jamais osé appeler le standard, mais aujourd'hui, je ne peux plus me retenir, car j'ai des sentiments pour toi. Tous les matins, j'écoute tes rubriques et tu es l'anticyclone qui soigne ma dépression. Alors j'espère que ce message te fera plaisir et qu'on pourra se rencontrer. Parce que tu sais, ici, en prison, je me sens tellement seul, mon petit soleil. Heureusement pour toi.
Courage, Francis.
Heureusement pour toi, je sors vendredi. Libéré, délivré, je sais que c'est ta chanson préférée.
Ah, il me connaît bien, Francis.
Alors, j'irai t'attendre à la sortie de RMC vendredi pour commencer c'est notre histoire. Je viendrai en métro, même si le pass Navigo, c'est cher, hein, c'est 135 euros par mois maintenant. Oui, parce qu'il y a le prix du pass Navigo, 90 euros, et il y a une règle que vous connaissez tous avec les transports en commun. Tu payes ton pass et le seul jour où tu l'oublies chez toi, c'est là que tu te fais contrôler. 45 balles de plus. Moi, ça m'a rendu dingue. J'ai été violent avec le contrôleur. Résultat, 6 mois de réclusion. Bisous Géraldine, à vendredi, ton petit Francis. Eh ben, tenez-nous au courant de comment ça va se passer.
Et désormais, j'appellerai Géraldine notre petit soleil. C'est notre petit soleil du matin, Arnaud Demange, qu'on retrouve tout à l'heure à 8h20, il est 7h29. À tout de suite, justement, pour la météo du journal. Pardonnez-nous, on est légèrement en retard, 7h32, le journal, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le redémarrage de la centrale à charbon de Saint-Avold, fermée au printemps, au nom de l'écologie, relancé cet automne pour faire face à la vague de froid. L'inflation qui plombe le quotidien, même le prix du sapin de Noël est en hausse, plus 10% cette année. Et des nouvelles de Karim Benzema, c'est une info RMC, il n'est pas apte à rejouer et donc à revenir avec les Bleus pour la fin du Mondial.
La centrale de Saint-Avold turbine à nouveau ce matin.
Cette centrale à charbon de Moselle avait été fermée au printemps par le gouvernement. À l'époque, il n'y avait pas la guerre en Ukraine et on pensait qu'on allait s'en sortir avec notre parc nucléaire. Finalement, ce n'est pas possible et voilà pourquoi 6 mois plus tard, la centrale vient d'être relancée. Les salariés qui avaient été licenciés à l'époque ont carrément été rappelés, nous explique Bettina de Guglielmo pour RMC.
Cette remise en service sonne comme une douce revanche pour les 70 employés de la centrale. Jean-Pierre Dame est délégué syndical Force Ouvrière.
Nous le vivons comme un signe d'avoir eu raison lorsque nous disions qu'il était prématuré de fermer cette centrale au mois de mars. Or, cette question, elle a été évacuée, à mon avis, trop hâtivement, d'autant plus que nous avions les premiers échos qu'il y avait de fortes probabilités de devoir redémarrer pour cet hiver.
En début d'été, la direction de la centrale a dû rappeler tous ses salariés licenciés. D'importantes primes leur ont été proposées. La quasi-totalité est revenue, mais tous s'inquiètent pour l'avenir. La centrale va-t-elle refermer au printemps prochain? Pour tenter d'avoir une réponse, Alexandre Loubet, député RN de Moselle, a interpellé le gouvernement.
Ni l'industriel, ni les salariés qui ont été méprisés n'ont de visibilité sur le nombre de saisons d'exploitation de cette centrale à charbon. Je pense qu'en réalité, le gouvernement n'a pas le courage d'assumer. Au regard de l'abandon du parc nucléaire français dont il est responsable, eh bien on va devoir faire tourner la centrale à charbon de Saint-Avold une année supplémentaire au moins.
La centrale de Saint-Avold alimente environ 600 000 foyers. Cela représente un tiers des ménages de la région Grand Est.
Emmanuel Macron s'envole pour 3 jours aux États-Unis. Première visite d'État sous la présidence de Joe Biden au moment où les Européens s'inquiètent de la politique américaine de préférence nationale pour faire face à la crise économique. À ce sujet, rien n'échappe à l'inflation, même pas les sapins Noël, je vous le disais, que certains commencent à acheter et à décorer. Comme à Pont-Saint-Martin, c'est près de Nantes où le sapin se vend 10% plus cher cette année, c'est ce que nous dit Alexis Vivier pour RMC.
Rima est en avance cette année. Les décorations de Noël sont dans le caddie. Le sapin acheté depuis hier et elle a bien vu le changement à la caisse.
Ça a augmenté les prix, bah oui. Bon, ça dépend les qualités, c'est entre 35 à 50 euros, mais c'est pas les meilleures qualités. Hein.
Et peu importe le prix pour Raïssa, il y aura dans tous les cas un sapin dans le salon.
L'arbre de Noël, c'est sacré. De toute façon, il y aura un sapin quoi qu'il arrive.
Et côté jardinerie, comme au jardin de Grandlieu à côté de Nantes, tout est prêt, nous assure Mégane.
Oui, on a une petite forêt donc, qui est là depuis le 15 novembre. On a reçu à peu près 375 sapins et puis on en reçoit encore à peu près la même quantité la semaine prochaine.
Mais comparé à l'an dernier, le sapin est 10% plus cher. Le président de l'association des sapins de Noël, Frédéric Naudet, nous explique pourquoi.
Le carburant, l'emballage, parce que tous les emballages qui sont des emballages en bois ont augmenté encore cette année entre 30 et 50%, donc c'est des augmentations extrêmement importantes. Et puis, bien entendu, aussi la main-d'œuvre, ça aussi, c'est des postes très importants chez nous.
Des professionnels qui restent tout de même optimistes pour les ventes cette année.
La mobilisation inédite des bouchers charcutiers. Aujourd'hui, ils vont manifester à la mi-journée en tablier devant l'Assemblée à Paris pour alerter sur la hausse des coûts de l'énergie. La mobilisation aussi des psychiatres des hôpitaux. Aujourd'hui, rassemblement ce matin devant le ministère de la Santé à Paris et dans d'autres villes comme à Toulouse, où Julie Rieux, psychiatre, nous donne un exemple très concret pour montrer le délabrement de son métier. Voilà ce qui se passe quand il y a 10 patients dans son service.
Sur ces 10 patients, nous n'avons la possibilité de suivre que 3 ou 4 patients. Nous sommes donc obligés d'opérer un tri parmi ces patients qui s'adressent à nous. Et les patients que nous ne pourrons pas suivre, nous les renvoyons vers la médecine libérale. Nous ne pouvons plus continuer à travailler comme ça et à laisser la population courir des risques quant à sa santé mentale. Et ce sont des conditions très insatisfaisantes également pour les professionnels de santé.
Un coup de théâtre judiciaire en Corse, un homme de 26 ans, condamné en première instance à 18 ans de réclusion pour un assassinat en 2017 à Kerjez, a finalement été acquitté en appel hier soir devant les assises de Bastia.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Et le tableau final commence à se dessiner. Le Brésil et le Portugal rejoignent la France en huitième de finale du mondial. 1-0 pour le Brésil contre la Suisse hier. 2-0 pour le Portugal contre l'Uruguay. Nos Bleus préparent leur match de demain. Ce sera dans l'après-midi à 16h contre la Tunisie. La moitié de l'équipe devrait changer d'ailleurs, notamment la défense. On est déjà qualifié. Une information RMC, Karim Benzema n'est pas apte encore à rejouer et donc à revenir en équipe de France pour la fin de la compétition. Contrairement à ce qui se dit en Espagne, Arthur Perrault, pour RMC, Karim Benzema se remet toujours de sa blessure.
Oui, la presse espagnole s'est enflammée, mais selon nos informations, Benzema n'est pas apte pour le moment. L'attaquant va bien reprendre l'entraînement ce jeudi à Madrid, mais loin de ses coéquipiers, la raison, il poursuit sa convalescence en suivant un protocole de reprise strict 10 jours après avoir été touché au quadriceps de la cuisse gauche. Un coup dur l'obligeant à mettre un terme à sa Coupe du Monde, mais Benzema reste officiellement inscrit sur la liste des Bleus, ce qui, selon le règlement, lui offre la possibilité de revenir en sélection. Seul Didier Deschamps peut décider, une infime chance, presque nulle, à moins de 3 semaines de la grande finale du Mondial.
On est pile poil à la moitié de la Coupe du Monde ce matin. Ça passe très vite. On va voir une dernière fois le pays hôte, le Qatar, qui est déjà éliminé. Ce sera cet après-midi à 16h contre les Pays-Bas.
Et le quintet, Quentin, c'est à Deauville.
13h50, RMC Découverte. Les pronos de la Dream Team ce matin, le 6 et le 15. Le 6 en favori, Lamento. Le 15 en outsider, Beautiful Aspen.
C'était le journal de Quentin Vinet, 7h38 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Du jamais vu depuis plus de 20 ans, les bouchers charcutiers manifestent ce matin devant l'Assemblée nationale et vous en ferez partie. Jean-François Guillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Pour vous, le bouclier tarifaire n'est pas assez protecteur et on en parle dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40, bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC.
L'invité du jour.
C'est vous, Jean-François Guillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Vous êtes dans ce studio d'RMC et puis en ligne avec nous depuis Nice. Il y a aussi Frédéric Roy, artisan boulanger. Bonjour.
Bonjour.
Je commence avec vous, Jean-François Guillard, qui êtes boucher, donc, parce que votre profession, les bouchers charcutiers, n'ont pas manifesté depuis plus de 20 ans. La dernière fois, c'était au moment de la crise de la vache folle. Et vous manifesterez ce matin devant l'Assemblée nationale contre la hausse des prix de l'énergie. Vous estimez que les aides ne sont pas suffisantes.
Oui, en effet, lors de notre Assemblée Générale le 20 novembre dernier, donc, nos représentants départementaux ont souhaité qu'on fasse un rassemblement auprès de l'Assemblée Nationale, ce qui va être fait tout à l'heure à 11h, justement pour alerter sur les coûts, les coûts de la marchandise en général, mais notamment de l'énergie avec une...
C'est quoi l'énergie pour un boucher? C'est la chambre froide, c'est le transport, quels sont vos principaux postes de coûts?
Les principaux postes pour les bouchers charcutiers traiteurs, c'est tout ce qui est froid, donc
voilà.
Vitrine, chambre froide, parce que à chaque produit, à chaque type de produit, c'est une chambre froide. Hein, donc, y a les légumes à côté, la viande, la volaille d'un autre. Ça, c'est le premier poste, donc le froid. Après, vous avez tout le chaud, donc tout ce qui est fabrication, les fours, les sauteuses, les plaques chauffantes, les rôtissoires. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, dans le métier, la partie rôtisserie prend une place de plus en plus importante. Et puis après, vous avez tout ce qui est... pour les véhicules, hein, donc pour les livraisons, pour
le transport et notamment le transport. les camions frigorifiques. Frédéric Roy est également avec nous donc depuis Nice. Frédéric, vous depuis votre boulangerie de Nice, vous rencontrez les mêmes difficultés. Alors c'est pas forcément la même chaîne du froid, mais c'est l'énergie qui devient un poste extrêmement important et qui vous réduit les marges.
Ben, au-delà de ça, c'est un poste qui va nous mettre sur la paille dès début janvier, quoi, hein, puisqu'on a des factures. Moi, elle va être multipliée par 4. Actuellement, je paye 1 000 euros, je passe à 4 000 en janvier. Je pourrais pas payer. C'est la fin. C'est la fin. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Et c'est 80% des boulangers qui sont touchés, puisque ils ne bénéficient pas du bouclier tarifaire puisqu'on est ce qu'on appelle des gros consommateurs. Gros consommateurs que je dois aussi rappeler, on a apprécié durant toutes ces décennies parce que ce sont ces mêmes gros consommateurs qui payent des gros chèques à la fin du mois et tout le monde est content de les recevoir, y compris le gouvernement qui prend sa TVA et autres taxes. Donc aujourd'hui, il y en a marre, mais il y en a franchement ras-le-bol. Donc on dit stop et on va manifester. Aujourd'hui, c'est les bouchers, ils ont notre entier soutien. Mais moi, j'invite tous les métiers de l'artisanat, tous les métiers concernés par cette hausse à venir manifester aussi avec nous le 23 janvier. Il faut qu'on y soit tous devant le ministère des Finances. Ça ne peut pas durer comme ça, on ne fermera pas. On a des métiers d'amour, des métiers de passion, on dit stop.
Vous n'en pouvez plus et vous dites ma facture elle va passer de 1000 à 4000 euros dans le même temps, votre baguette va pas passer de va pas être multipliée par 4, vous allez pas vendre la baguette 4 euros.
C'est ça qui est impossible. On peut pas répercuter l'entièreté de l'augmentation sur nos prix de vente. C'est pas possible, les gens pourront pas payer. Et en face, on a de la concurrence, on a des grandes chaînes, on a la grande distribution. L'écart de prix entre la grande distribution et l'artisanat sera tel que les gens pourront plus venir acheter chez les artisans. Donc on fermera boutique. Donc on dit non, on dit stop et on y va.
Et moi, j'aimerais bien comprendre comment ça marche, les aides. C'est-à-dire qu'on a quand même des... On a entendu hein, dans la voix de Bruno Le Maire qu'au départ, il y avait soi-disant des aides et puis ensuite, ils se sont rendus compte qu'elles étaient trop complexes, qu'elles ne fonctionnaient pas, qu'elles n'étaient pas suffisamment ciblées, qu'il y avait aussi des conditions de chiffre d'affaires, de proportion de l'électricité dans le chiffre d'affaires. Concrètement, est-ce que vous avez réussi à y voir plus clair? Est-ce que vous savez quelle proportion d'aides vous allez toucher? Je me tourne vers vous d'abord, oui. Jean-François Guillard, là-dessus.
Oui, en effet. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne nos métiers, la boucherie, charcuterie, traiteur, donc 40% des artisans sont normalement protégés par le bouclier tarifaire. Sauf que certains sortent de ce bouclier parce qu'ils ont plus de 10 salariés.
Oui, c'est ça. En fait, il y a des conditions à tout. On a l'impression qu'il y a des astérix. C'est que en bas de la page, écrit en tout petit, il y a toutes les conditions qui font que finalement, vous sortez de ces aides. Vous ne les toucherez pas.
Donc, vous pouvez avoir 11 salariés. Donc, vous sortez du système. Si vous êtes à 60 kW, vous sortez du système. Donc, le bouclier tarifaire, c'est très bien. Il ne faut pas non plus dire ce qui n'est pas bien. Par contre, il y a un énorme trou dans la raquette ou une zone blanche quand on est juste à la frontière. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette mesure du bouclier tarifaire soit un petit peu plus étendue, aller plus loin dans le kilowatt, aller plus loin dans le nombre de salariés, aller plus loin dans le chiffre d'affaires.
Qui n'est pas toutes ces limites. Je reviens vers vous dans un instant, Frédéric Roy, mais je vais passer d'abord par la Gironde avec Florence qui nous a appelé au 3216. Bonjour Florence.
Bonjour.
Florence, vous êtes comptable et vous faites notamment la comptabilité, je crois, de votre mari qui a une entreprise de menuiserie. Et vous vouliez témoigner sur justement ces factures d'électricité. Votre facture à vous, elle va très largement augmenter. Et est-ce que vous avez mesuré quelles allaient être les aides que vous alliez toucher?
Eh bien, écoutez, notre facture, oui, elle va passer. Alors, au mois de septembre, elle passait de 8 000 à 60 000 euros par an. Là, on pourrait penser que j'ai fait une bonne affaire puisque je vais être à 26 000 euros. En gros, bah, les aides, on a essayé de calculer, mais c'est le grand point d'interrogation. J'entendais les bouchers, les boulangers. En fait, les calculs sont très difficiles à faire pour vraiment y voir clair. Mais... in fine, on peut dire que demain, effectivement, c'est l'arrêt de l'artisanat et le boulanger le disait bien, on va pas pouvoir suivre, c'est pas possible. C'est la baguette 1 euro, on vous la vend à 6,10 €, est-ce que vous allez pouvoir acheter? Moi, mes fenêtres aujourd'hui, on a multiplié par à 100%, par exemple, le PVC, on a multiplié par 100 le prix d'achat. Voilà.
Multiplié par 100 le prix d'achat. Donc ensuite, comment est-ce que vous allez faire pour le revendre derrière? Florence, si j'ai bien compris, vous payez avant. Votre facture, c'était 8 000 euros par an. Oui. Le fournisseur vous a dit ça va passer à 60 000. Là, vous avez négocié et vous avez très bien négocié parce que vous avez réussi à faire passer de 60 000 à 26 000. Mais là-dessus, vous dites c'est le flou, mais est-ce que vous avez quand même une idée de ce que l'État va prendre à son compte?
Eh bien, alors, a priori, si les calculs sont bons que j'ai fait avec mon comptable, on aurait une petite aide qui va nous permettre de diminuer de 7, la multiplication par 7 à 6,46. Mais en fait, on n'est pas sûr parce que dans leurs calculs, il y a le prix de l'arène. C'est très compliqué, en fait. Et il faut enlever sur le prix au kilowattheure quelque chose et on n'y voit rien.
Ça
voilà, c'est délirant. Et je crois que demain, il faut qu'on s'arrête, mais la manifestation, c'est une chose, mais je crois que pour pas se faire embarquer non plus dans les débordements qu'il peut y avoir, moi je dis demain, arrêtons-nous tous une semaine, on se coordonne pour ceux qui sont dans le métier de la bouche et pas de problème pour perdre leur matière, parce qu'effectivement il y a cette perte que moi je peux ne pas avoir, mais arrêtons-nous tous pendant une semaine, on bloque tout, sans manifester, mais simplement dire, eh bien là sans nous, on pourra plus rien faire parce que nos salariés sont là et demain ils auront plus d'emploi non plus.
C'est la fin de l'artisanat, voilà ce que vous dites, Florence. Frédéric Roy, vous avez fait ce calcul, vous avez vu ce que l'État prendrait à son compte?
J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec un conseiller en énergie du ministère, dont il a calculé assez précisément. Il nous a fallu 45 minutes au téléphone.
Alors que lui-même, il bosse à Bercy.
Voilà. Donc, s'en est suivi. Donc, actuellement, pour bien être clair, je paye 1 000 euros en moyenne par mois d'électricité. À partir du 1er janvier, je passe à 4 000. Mon aide sera aux alentours de 320 euros mensuels.
320 euros sur les 4 000 euros?
Voilà, voilà. Donc, ça va. Ça
et là,
va
c'est un conseiller de Bercy qui vous le dit. Donc, pour le coup, c'est censé être précis.
Oui, bien sûr, bien sûr,
C'est de cet ordre-là, Jean-François Guillard, c'est de cet ordre-là aussi pour vous, les bouchers?
Tout à fait. Et la vraie problématique qu'on a là, c'est ce manque de visibilité. Aujourd'hui, si je prends par exemple mon cas personnel, j'ai appelé mon fournisseur d'énergie, j'ai un prix qui est bloqué jusqu'au mois de mai, il a augmenté quand même au mois d'octobre, il est bloqué jusqu'au mois de mai, mais au mois de mars, je peux très bien recevoir un courrier en me disant, votre facture, ça va être fois 2, fois 3, fois 4. Donc, ce qu'on demande, c'est avoir aussi de la lisibilité. Comment voulez-vous gérer une entreprise quand vous n'avez pas de lisibilité? Comment voulez-vous embaucher? Comment voulez-vous investir si vous prenez, très bien notre ami Boulanger, si vous prenez 30 000 euros sur votre facture, que ces 30 000 euros, c'est peut-être le résultat de votre entreprise, ça veut dire que vous n'avez plus de trésorerie, ça veut dire que vous ne pouvez plus fonctionner. Et là, on arrive déjà aujourd'hui avec les coûts des matières à des entreprises qui n'ont peut-être pas augmenté suffisamment parce que...
Et la question derrière, c'est aussi la question au final des consommateurs. C'est-à-dire, est-ce que ça va créer finalement le pain, la viande vont devenir des produits de luxe? Pour la viande, c'est déjà en train de devenir le cas. Pour le pain, demain, l'impossibilité aussi de pouvoir se nourrir et créer finalement une France à plusieurs vitesses. Merci à chacun pour votre témoignage. Jean-François Guillard, je rappelle que vous êtes le président de la Confédération française de la boucherie-charcuterie. Vous organisez aujourd'hui même cette manifestation devant l'Assemblée nationale. Frédéric Roy, artisan boucher, artisan boulanger à Nice. Et vous le dites, le 23 janvier, vous appelez tous les artisans de France à se joindre à vous. Et Florence qui nous a appelé au 32-16 pour témoigner donc de cette entreprise de menuiserie en Gironde. Florence, votre cri du cœur quand vous dites c'est l'arrêt de l'artisanat. On espère que vous serez entendu. Il est 7h51.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Une décision de justice qui pourrait faire date. Un homme a été condamné par un tribunal hier pour des faits d'agression sexuelle qui étaient prescrits. Vous allez tout comprendre dans un instant avec Nicolas Poincaré et ses explications.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Joe Star vient de publier un livre de cuisine.
On l'a connu rappeur, il a désormais une belle carrière d'acteur et le voici en librairie avec son guide bistronomique aux éditions Télémac. Car oui, Joe Star est un dingue de bouffe et même comme il le précise, attention, je ne cuisine pas, je fais à manger.
Là c'est la saison des Saint-Jacques, je pense que je pourrais manger au moins une fois par jour. Moi j'aime bien travailler la patate douce par exemple, des choses comme ça. Je suis un viandard donc ça aussi, je serais capable de manger le même aliment quasiment toute la semaine parce que je vais arriver, je vais le faire différemment.
Et dans ce livre, il partage ses bons plans, 150 adresses d'artisans, de producteurs, de restaurants partout en France, mais aussi ses propres recettes, la tartine NTM à base de nectarine, de thym et de menthe, ou encore son suprême de pintade pour une cuisine à base de pop.
RMC, Apolline Matin.
7h54, l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Expliquez-nous, Nicolas. C'est un jugement important qui a été rendu hier. Un homme a été condamné par un tribunal civil pour des faits d'agression sexuelle qui datent d'il y a plus de 30 ans. Une décision qui pourrait changer beaucoup de choses en matière de prescription.
Oui, c'est l'histoire d'un homme qui est une grande figure du milieu hippique, propriétaire de chevaux, membre de la très chic association France Gallo. Il a une forte personnalité. Il a été collaborateur du ministre Charles Pasqua. Il semblait respectable et respecté. Sauf qu'en 2018, il est soudain accusé d'avoir sexuellement agressé deux garçons mineurs. Le premier est le fils d'un très célèbre jockey, 15 fois sacré cravache d'or, un fils qui porte plainte pour des faits qui seraient déroulés en 2009 lorsqu'il avait 13 ans. L'agresseur présumé est mis en examen, l'instruction vient de se terminer et il devrait bientôt être jugé.
Le cas du deuxième plaignant est plus compliqué.
Oui, alors lui s'appelle Jérémy Garamond et il a aujourd'hui 46 ans. C'est le fils de très bons amis de cet éleveur de chevaux. Lui porte plainte pour des agressions sexuelles dans la maison de campagne de ses parents entre ses 13 et ses 15 ans. Mais les derniers faits remontent à l'été 90. C'est trop ancien. Ils sont donc prescrits depuis 4 ans lorsqu'il se décide à porter plainte. Mais son avocat, maître Olivier Pardot, pense avoir trouvé un truc, je cite, pour mettre fin à la frustration des victimes de crimes sexuels découvrant le problème de la prescription. Maître Pardot décide de poursuivre l'agresseur présumé non pas devant la justice pénale, mais devant la justice civile. Il le poursuit donc non pas pour un crime ou un délit, mais pour une faute qui a causé un préjudice et qui mérite réparation.
Et la Cour civile lui a donné raison.
Oui, dans un jugement qui est peut-être historique et qui est révélé ce matin par Cécile Denré de BFM TV, le tribunal a d'abord estimé que les faits d'agression sexuelle étaient établis. Le notable du monde hippique a toujours nié ce qu'on lui reprochait, mais le jugement rappelle qu'il a présenté ses excuses aux parents des victimes dans les deux cas, parlant lui-même dans une lettre d'actes indécents. Mais, et c'est surtout ce qui change tout, le tribunal a estimé que ces faits de 1990 n'étaient pas prescrits. Cela au nom d'un article du Code civil qui dit que la prescription court à partir de la consolidation de la victime. Pour dire la chose plus clairement, la prescription se calcule à partir de la guérison de la victime. En l'occurrence, un expert psychiatre, le docteur Zaguri, a estimé que ce garçon a souffert pendant des années de son agression, et notamment lorsque lui-même est devenu père. Il a par exemple très mal vécu que son agresseur vienne assister aux obsèques de sa mère, puisque c'était un ami de ses parents. L'expert psychiatre affirme que c'est finalement lors du dépôt de la plainte, en 2018, qu'il a enfin tourné la page. La prescription, a jugé le tribunal, ne court donc qu'à partir de 2018.
Et l'agresseur a donc été condamné. Et condamné à quoi?
Alors, comme ce n'est pas un tribunal pénal, il n'a pas eu de peine, pas d'inscription au casier judiciaire, pas d'obligation de soins. Mais cet homme, qui a aujourd'hui 82 ans, est déclaré fautif et condamné à réparer sa faute. Le montant sera fixé par une prochaine audience. Le plaignant a réclamé 103 000 euros. Il a de bonnes chances de les obtenir. Il compte offrir la somme à des associations pour montrer que ce n'est pas l'argent sa motivation de départ. Il voulait surtout que son agresseur soit reconnu comme tel, ce que la Cour a établi sans ambiguïté.
Et que va changer cette décision de justice?
Alors, si elle n'est pas infirmée en appel ou par la Cour de cassation, elle devrait faire jurisprudence. Ça veut dire qu'à l'avenir, une victime de violences sexuelles pourrait porter plainte au civil 30, 40 ans ou 50 ans après sa majorité s'il est établi qu'elle a souffert de traumatisme durant toutes ces années. Ce serait presque la fin de la prescription, au moins devant la justice civile. Hier soir déjà, plusieurs femmes qui ont porté plainte contre PPDA se sont retrouvées pour analyser ce jugement qu'elles trouvent presque trop beau pour être vrai et trop tôt pour dire si elles vont suivre le même chemin et engager la même procédure. Mais cette décision d'hier ouvre bien une voie de recours à des centaines de victimes d'agressions sexuelles dans des affaires qu'on pensait prescrites.
Nicolas Poincaré, il est 7h58. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.